Bonjour, ici François Nardou de Montcuq, depuis les studios du Boulevard, en Quercy-Blanc. Aujourd'hui, j'ai envie, à cette saison de fin d'hiver, de vous parler de la Chandeleur et de toutes les traditions qui tournent autour de cette date et des jours qui vont avec. Il n'y a pas que la Chandeleur, vous avez aussi, dès le début février, le 1er février, jour de Sainte-Brigitte, la Chandeleur le lendemain 2 février. D'autres dates que l'on connaît moins, le 3 février, la Saint-Blaise, le 4, la Saint-Isidore, et enfin le 5, la Sainte-Agathe. Alors ce sont des dates qui, dans la culture de toute l'Europe ancienne, ont été retenues comme dates clés de modification, de mutation de l'hiver vers le printemps. Ce sont des dates qui inaugurent le mois le plus court de l'année, mais aussi le moins courtois, le mois de février. C'est ce mois qui, dans d'autres régions que les nôtres, est à l'origine de proverbes quant au temps qu'il fait. Je pense à un proverbe du pays de Charente, chez mon père, « Février remplit les fossés, mars les cure ». C'est-à-dire que le mois de février se traduit par d'abondantes pluies avec crues et inondations, alors que le mois de mars, au contraire, est un mois de beau temps chaud et sec. Les fameux halles de mars qui sont très appréciés des jardiniers. Un autre proverbe nous dit ceci, que mieux vaut un loup dans le troupeau qu'un mois de février trop beau. Un autre proverbe enfin, toujours des pays d'Oï et non pas de nos régions d'Oc. À la Saint-Blaise, 3 février, le froid s'apaise ou redouble et reprend et pour longtemps. Alors il y a un proverbe que j'ai trouvé qui est encore plus crucial. Pour le 4 février, la Saint-Isidore, le saint patron des laboureurs. San Isidro Labrador, comme on dit en Espagne, c'est le saint patron de Madrid. Si le 4 février, Saint Isidore, il fait beau, l'année sera féconde de grosses récoltes. Ce sera une année heureuse. S'il neige ou s'il pleut, les récoltes seront plutôt insuffisantes. S'il y a du brouillard, il faut s'attendre à des épidémies. On peut y penser en ce moment. Et s'il fait du vent, il fera le même temps venteux au mois de mars. Alors le 4 février est donc une date clé en pays d'Oï. Mais qu'en est-il en pays d'Oc ? Les curieux intéressés pourront, entre autres ouvrages, lire de Dominique Pauvert, professeur docteur en histoire, agrégé d'histoire, « La religion carnavalesque », collection d'Etens Pacan, aux éditions du Chemin de Saint-Jacques, Lutzami de Senzaome, ce qui est une maison d'édition établie en Limousin. Alors, d'Etens Pacan s'écrit à l'occitane, « Ethnomythologie populaire en pays d'Oc ». Vous pourrez lire également « Le vieux Quercy » du chanoine Sol, indispensable, notamment le tome 1, les pages sur la Chandeleur et les jours de la Sainte-Agathe, de la Saint-Blaise. Vous pourriez lire également un excellent recueil, un compte rendu d'enquêtes ethnologiques et ethnographiques menées il y a quelques années sur le canton de Lozère, qui est totalement couvert par cette enquête, aux éditions de la Talbero et collection Alcantou, où il y a beaucoup de choses fort intéressantes. Et évidemment, il ne faudra pas négliger le festin du troubadour, nourriture, société et littérature en Occitanie, de 1100 à 1500, par Wendy Pfeffer. C'est la version grand public de sa thèse de doctorat en histoire. Alors, pour en revenir au sujet, ces fêtes de début février me paraissent, d'après les proverbes, des fêtes de date clé, autour desquelles s'orientent, se réorientent, mutent, changent ou perdurent le temps de l'hiver. C'est le moment où l'hiver se décide à s'en aller ou à rester ou à revenir. Et parmi ces traditions qui permettent aux populations de supporter, de marquer cette période de mutation du temps, vous avez, pour parler de choses plus, agréables, le rite des crêpes, l'ouï pescatsus ou l'ail pescatsunos, le rite bien marqué dans nos régions, notamment par l'enquête dans le pays de Lozère, où cela nous est bien montré, on nous montre bien l'importance qu'avait ce rite des crêpes dans la culture paysanne d'autrefois en Quercy-Blanc. Et vous avez un autre rite qui va avec le mois de février et une autre façon de voir les choses, c'est la tradition du murtaigirol, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, pour en revenir aux crêpes, les crêpes de la Chandeleur, pescatsos ou pescatsus de la Candelieiro, marquent ce jour qui, dans la vision que l'on avait autrefois des choses, était un jour clé dans l'hiver. on disait que « C'est nostro dono della candeliera se su l'elio, mentre 40 zur cramola se vuol legno. » Si Notre-Dame de la Chandeleur se chauffe au soleil, pendant 40 jours, elle va brûler son bois. L'hiver va, comment dirais-je, empirer pendant les 40 jours qui suivent, donc jusque vers le 12-14 mars. Et cette date clé est marquée dans nos régions par le rite, la tradition des crêpes, l'ui pescatsu, sali pescatsunos, les crêpes épaisses, qui, d'après le vieux Quercy du chanoine Sol, l'enquête ethnologique sur le canton de Lozère, d'après d'autres traditions qui ont pu m'être rapportées, est un rite, disons, familial, qui est de la compétence exclusive de la mère de famille, la maestresso dell'ustal, exactement comme les charbons que l'on conserve issus de la crémation de la bûche de Noël. Luca Sofioc, dont je vous parlais dans une émission précédente. Alors, il y a une chose qui est intéressante, parce que voilà ce qu'on nous dit. On retrouve du reste une correspondance avec le rite de la nuit de Noël. N'oubliez pas que la Chandeleur, c'est 40 jours après Noël. Ces fameuses quarantaines dont Mistral avait relevé l'existence et dont il nous expose les significations dans ses « Memoris Racuntes ». Alors, ce que nous dit le chanoine Sol, ce que nous dit l'enquête sur le canton de Lozère, se résume en ceci. Le soir de la Chandeleur, ou le jour de la Chandeleur, Candeliero, Candelou, selon les régions, la mère de famille, la maestresso, prépare des crêpes, avec une pâte, bon, une façon, alors chacun a sa recette, il y en a plus riche, plus ou moins élaborée. Elle doit faire sauter la première crêpe hors de la poêle, la padeno, sans que cette crêpe tombe à terre. Alors elle doit la faire sauter en tenant un louis d'or dans la main qui tient le manche de la poêle ou dans l'autre main, c'est pas toujours facile. Elle doit la faire sauter et la retourner de façon à ce que la crêpe retombe en haut de l'armoire, l'alimento, ou sur le plateau de la cheminée. Et si la crêpe tombe au sol, c'est mauvais signe. Si au contraire, elle reste bien plaquée en haut du buffet, c'est parfait. C'est signe d'abondance et d'abondante récolte et d'une année heureuse pour la famille. La crêpe devra rester en haut de cette armoire ou sur le plateau de la cheminée toute l'année, à se dessécher. Il y avait un véritable tabou. La crêpe ne doit pas tomber au sol. On y a vu beaucoup d'interprétations. Alors on a vu dans la crêpe une image du soleil qui doit rester en haut, dans le ciel, etc. On a vu là un rite solaire, un rite de, en quelque sorte, où la mère de famille, déterminée par le rite accompli, l'abondance de l'année à venir, et cela sous le signe de l'activité solaire. Dans les familles pieuses, dévotes, catholiques, ce qu'on appelle les familles gleijalos, qui fréquentent la gleijo, c'est l'église. La première crêpe ne sera pas mangée, elle n'est jamais mangée. Cette première crêpe, c'est un véritable prémisse offert aux puissances supérieures, disons, divines. Alors, dans les familles très chrétiennes du canton de Lozère, cette première crêpe devait être pliée en quatre, placée dans un tissu propre, sec, ou un morceau de papier absorbant, et elle devait être posée en offrande de prémisse devant la statue de la Sainte Vierge sur le plateau de la cheminée, ou même placée sous la statue de la Sainte Vierge. Et cette offrande, auquel on ne touchait pas, devait assurer l'abondance des récoltes pour toute l'année. C'était là, si vous voulez, un rite classique dans nos régions, mais qui se doublait de notre pratique, dont j'ai entendu parler à Montcuq par notre fameuse plus que guérisseuse, dont je vous ai souvent parlé, notamment à propos de la légende de Saint-Jean-le-Froid, dont elle m'avait transmis la version la plus élaborée, la plus historienne et en même temps que la plus riche de sens au point de vue de la mythologie, de l'histoire des mythes, de l'histoire sacrée. Alors cette personne m'avait parlé d'un plat que l'on servait en février, mais dans une autre optique, un autre cadre que celui des crêpes. Le mois de février dans nos régions, et c'était particulièrement vrai aux confins des pays de Montcuq et de Lozère. Mon père en Charente ne connaissait pas du tout ce rite. Mon père qui était très catholique, très pratiquant, il était passé par le petit et le grand séminaire, il n'avait jamais entendu parler de ça dans le diocèse d'Angoulême. Alors dans les diocèses de Cahors et de Montauban, aux confins des pays de Montcuq et de Lozère, et c'est très curieux, c'était centré sur Caminel, Le Breil, Sainte-Juliette, Bouloc, c'était également centré sur peut-être Saint-Félix, vraiment les pays de confins, entre deux anciennes châtellenies des comtes de Toulouse, Lozère et Montcuq. Lozère cofondée par les Rouzés de Saint-Aignan de Rouzés, connus pour les sculptures très étranges et très ésotériques de leur église. Alors, dans ce pays, on devait, et la date ultime était le 22 février, faire célébrer des offices liturgiques, des messes, avec procession au cimetière. On appelait ces offices des grands services. Ils étaient célébrés en février dans chaque paroisse, et avec chants, musique, oraisons, sermons, etc., suivi d'une procession au cimetière. Et au retour, à la maison, un repas a été servi aux membres, voilà, toute la cousinerie, à toute la parenté qui était invitée pour chaque grand service dans chaque paroisse. Ce qui fait qu'il y avait de véritables échanges de population d'une paroisse à l'autre, étant donné que toute la cousinerie était invitée dans chaque paroisse, on tournait sur le mois de février. Et il fallait que les grands services soient absolument achevés le 22 février. Alors pourquoi le 22 février ? Dans le calendrier catholique, c'est la fête de la chaire de Saint-Pierre, le trône épiscopal de Saint-Pierre, la fondation de l'Église de Rome. En fait, ça succède à une très vieille fête de la Rome archaïque, de la religion romaine archaïque pré-chrétienne, qui était la fête des Lemuria ou des Parentalia, et qui était le dernier jour à la disposition des Romains pour célébrer les rites funéraires en l'honneur des morts de la famille. Les Romains avaient tout le mois de février pour le faire et il fallait qu'absolument le dernier jour possible, c'était le 22 février. On retrouve la même tradition, bizarrement, en Quercyblan. Mon père, encore, je me souviens, était convoqué par l'abbé Coste pour aller assurer les chants en grégorien dans les églises du doyenné de Montcuq. Je vois encore les gens venir au magasin et dire à mon père « Monsieur Nardou, vous serez bien là pour le grand service, au moins à Caminel, ailleurs. » Et il fallait absolument que ce soit fait avant le 22 février. C'était assez curieux, une survivance de la religion romaine archaïque polythéiste en Quercyblan sous la forme de rites religieux catholiques. Et alors, pour ces grands services, on réunissait ensuite toute la famille autour d'une table dans la grande salle de la ferme, de la maison ou dans la cheminée de laquelle flambait un grand feu clair et réchauffant, et on servait un plat particulier. Alors ma mère me disait, c'était aux origines un simple plat de haricots ou de fèves, sans plus. Sans trop d'apprêt, sans beaucoup d'enrichissement. C'était le plat de ce qu'on appelait les noces tristes. Les noces tristes, c'est les funérailles. Et notre fameuse, plus que guérisseuse de Montcuq, m'en avait parlé de ce plat, qu'on appelle du nom de Mortairol. Et elle m'avait donné une recette bien plus riche d'ingrédients et qui permet de voir dans le Mortairol l'ancêtre du cassoulet, tout simplement. Cassoulet dont on sait que il était aux origines fait avec des fèves, et dont on pense qu'au temps des contes de Toulouse et du catharisme, il était déjà consommé. Alors le Mortairol, lui, il apparaît dans la littérature occitane dès la fin du XIIe siècle, au XIIIe siècle, dans les œuvres d'un fameux troubadour né à Toulouse, bien connu, Peire Cardenal, Pierre le Cardinal, fils d'un possier, d'un pélissier de Toulouse, et qui a eu une carrière extrêmement féconde et heureuse dans toutes les cours de l'Occitanie de son temps et du bassin occidental de la Méditerranée chrétienne. Et Peire le Cardinal cite le Mortairol, que l'on retrouve, alors avec une recette bien explicitée et précisée, dans un ouvrage qui recueille des recettes de cuisine, composé au XIVe siècle et, tenez-vous bien, c'est intéressant, en Rouergue, donc pas très loin d'ici. Cet ouvrage qu'on appelle le Modus a été diffusé ensuite dans tous les pays d'Orque et dans tout le bassin occidental de la Méditerranée chrétienne. Et cet ouvrage nous donne la recette du Mortairol, telle que Peire Cardenal en parlait et telle que notre fameuse plus que guérisseuse de Montcuq m'en avait dit deux mots, sans plus. On peut parler de Mortairol au pluriel. Du reste, on le retrouve cité dans un ouvrage toujours du début du XIVe siècle, rédigé dans le comtat venaissin par un fameux médecin formé à l'école de Montpellier, Crescas de Caillard, qui était un israélite, établi donc dans le comté d'Avignon, et dans son fameux roman d'Esther. Alors le roman d'Esther est intéressant, pourquoi ? Parce que cela est en rapport avec la fête juive de Purim, ce qu'on appelle vulgairement le carnaval juif, qui a lieu, c'est un calendrier lunaire, à notre mois de janvier-février. Ça correspond plus ou moins, disons, à notre Saint-Valentin, plus si on va par là, ou à notre fête de Chandeleur. Et Crescas de Caillard nous donne une recette du Mortairol que l'on retrouve dans une œuvre occitane du début du XIVe siècle, Guillien de la Barro, écrite par Arnaud Vidal de Castelnaudary, qui lui aussi cite le Mortairol. Alors, ce Mortairol, il est intéressant par la recette que m'avait donc plus ou moins évoquée notre plus que guérisseuse, et qui est davantage développée avec plein de détails dans l'ouvrage de Wendy Pfeffer, Le festin du troubadour. Alors, ce Montayrol, il est fait de quoi ? On y met, aux origines au Moyen-Âge, des fèves. De la volaille. À partir du XVIIe siècle, on remplacera les fèves par des haricots. Pour faire un Montayrol, alors voilà, c'est la recette que nous donne Wendy Pfeffer. Pour faire un Montayrol de viande, prenez des jarrets de mouton, coupez-les en dés, broyez du gingembre, du poivre, du safran. Mélangez du pain râpé avec du lait d'amande ou du bouillon bien gras. Quand c'est cuit, ajoutez des œufs. Et quand on veut le servir, mais nous ne le ferions pas de nos jours, on mettait du sucre. On peut faire la même chose avec des œufs et du fromage, et des épices. Alors la recette du Quercy blanc, elle, était composée plutôt avec certes toujours les mêmes viandes, mais surtout le fond du plat, c'était les haricots et les fèves. Et on faisait mijoter cela longuement sur le feu, à feu très doux, il fallait retenir le feu. Il ne fallait pas le faire cuire trop rapidement. Et on y ajoutait, alors d'après la recette qu'on m'avait transmise, les viandes devaient être émincées, elles devaient être longuement mijotées, on les faisait cuire dans leur jus, on les faisait quelquefois même rôtir, griller, frire. On y ajoutait alors tout un tas d'ingrédients de type oignon, ail, laurier, poivre, safran, olive, tout un tas d'épices différents. Il fallait que les ingrédients, les fèves au Moyen-Âge, les haricots à partir du XVIIe siècle, le haricot venu du Nouveau Monde est introduit dans nos régions au XVIe, XVIIe, les viandes émincées, longuement mijotées, se réduisent à l'état de purée, de daube, si vous voulez, avec les ingrédients que l'on pouvait chacun y ajouter ce qu'il voulait. Et ce Montayrol se retrouvait dans la cuisine de nos régions jusque donc aux années 50-70. Mais on pourra remarquer qu'il est quand même différent. Le Montayrol du Quercy blanc au XXe siècle n'a pas la même composition que celui du Moyen-Âge que nous transmet Wendy Pfeffer. Elle nous donne également une autre recette, celle d'un Montayrol de carême avec du poisson, qui est un peu différent, et qui pourrait se retrouver du reste dans les aliments qu'offraient aux prédicants de la foi cathare ou du valdéisme les Montcuquois ou les Lozertains du Moyen-Âge quand ils rencontraient ces prédicants dans les rues de Montcuq ou de Lozerte. Ce ne serait pas du tout surpris que ce soit la même chose. Alors, le Montayrol de carême, lui, était fait avec du poisson, du pain râpé, du poivre, du gingembre, du safran, du lait d'amande, une sauce que l'on fait bouillir longuement, et de la cannelle et du gingembre. Bon, ce sont les épices médiévaux qui ne se retrouvent pas forcément dans la cuisine actuelle. Notamment le sucre, qui de nos jours ne serait guère mis avec des plats de viande. Alors cette recette très riche avait un peu surpris ma mère, qui me disait que la recette liturgiquement correcte ne devait pas comprendre de viande. Car la viande était une nourriture interdite lors des repas de funérailles. D'où l'idée d'un Montayrol au poisson servi en carême. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est la référence aux fèves et aux haricots. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour quelle raison ? Est-ce que l'on a quelque chose qui est révélateur d'une vision du monde qui n'est plus la nôtre ? C'est que voilà. Il faut savoir que dans certaines sectes philosophico-théologiques antiques, je pense notamment aux sectes orphiques, qui se référaient donc au personnage d'Orphée, ou aux pythagoriciens, Pythagore a vécu au VIe siècle avant notre ère en Italie du Sud. Dans ces sectes religieuses et philosophiques, il était interdit aux adeptes de consommer des fèves. Et pourquoi cela ? Bon, les fèves remplacées par des haricots à partir du XVIe et XVIIe. C'est que l'on considérait que les fèves, et dans certaines sociétés secrètes initiatiques contemporaines, les haricots, qui remplacent la fève, étaient le réceptacle des âmes des défunts. Et manger des fèves, c'est le cas lorsqu'on sert un Montayrol, manger des fèves ou des haricots consiste à ingérer un aliment dans lequel sommeillent, en attendant la réincarnation, les âmes des défunts de la famille. Au fond, manger des fèves ou des haricots, pour les pythagoriciens et les orphiques, c'est favoriser, provoquer la réincarnation des défunts de la famille et leur renaissance sous la forme d'enfants, de nouveau-nés. C'est la vieille légende du Quercy qui est bien connue, selon laquelle toute naissance d'un nouveau-né dans un jeune couple provoque la mort d'un des grands-parents, et qui expliquerait du reste les certains détails des sculptures de Saint-Hilaire de Montcuq. Il nous faut nous quitter pour quelques minutes de musique avant d'attaquer un autre aspect du problème.
L'hiver est long, les temps sont durs et la vie n'est pas gaie. J'avons plus de farine qu'une mesure dans un racoin de la mer. J'avons qu'un bout de sale et pas cuit, dont le dessus est tout blême. Mais comme c'est la chandeleur à nuit, faisons des crêpes tout de même. C'est la chandeleur, mes pauvres gens, faisons des crêpes dans la cheminée. À seule fin d'avoir de l'argent, toute l'année. Pour devenir riche, faut travailler, que tout le monde se hâte. Marie, dans le grand saladier, tu vas battre la pâte. Là de la jonquille brûle en lançant des tas de petites étoiles. Allons paix Mathieu, crée bon sang, t'es bon à la queue de la poêle. C'est la chandeleur, mes pauvres gens, faisons des crêpes dans la cheminée. À seule fin d'avoir de l'argent, toute l'année. Disez les filles, disez les gars, qui qu'en fait sauter une. À la belle crêpe que voilà, elle est ronde comme une lune. Une de ce mari, je ne t'aimerai plus si tu veux pas la prendre. Sacré couillon, tu l'as foutu au bon mi-temps décembre. C'est la chandeleur, mes pauvres gens, faisons des crêpes dans la cheminée. À seule fin d'avoir de l'argent, toute l'année. Depuis que je fais ton chenou quand la chandeleur s'amène. Je suis encore à trouver un sou dans le talon de notre baleine. Mais puisqu'à nuit il ouvre la chantant devant les crêpes qui dansent, c'est toujours une miette de bon temps gagnée sur l'existence. C'est la chandeleur, mes pauvres gens, faisons des crêpes dans la cheminée. À seule fin d'avoir de l'argent toute l'année. Pendant ce temps-là, je rumine non pas nos mille et mille misères. Les vignes qu'on le phylloxéra et la vache qui est en terre. Et moi qui va être vendu, bah si l'huissier arrive, je lui collerai la poêle au cul pour y montrer à vivre. C'est la chandeleur, mes pauvres gens, faisons des crêpes dans la cheminée. À seule fin d'avoir de l'argent toute l'année. C'est la chandeleur, mes pauvres gens, faisons des crêpes dans la cheminée. À seule fin d'avoir de l'argent toute l'année.
Pour en revenir à notre Quercy Blanc et aux proverbes qui vont avec la période de début février, je vous ai parlé tout à l'heure du fameux proverbe « Se nostro dono della candeliero se su l'elio, mentre caranto zur cramola se o legno. » Si Notre-Dame de la Chandeleur se chauffe au soleil, pendant 40 jours, elle brûlera son bois. L'hiver reviendra pour 40 jours. Même proverbe dans les Pyrénées. On dit que si l'ours se réveille le jour de... L'ours, normalement, se réveille le matin de la Chandeleur. S'il voit le soleil, il rentre dans sa tanière pour 40 jours de plus. Vieille tradition des Pyrénées, je vous le dis en français. D'autres vous diront que pour la chandeleur, l'hiver s'achève ou revient et plus froid. Même proverbe que pour le 4 février à Saint-Isidore, dans certains pays. On a remarqué une chose. En février, fleurit l'amandier. Per février, fleurit l'amélier. D'autres vous diront, per Sant'Agato, semeno la purrato. Pour Sainte-Agathe, 5 février, il faut semer les poireaux. Donc ça veut dire quoi ? Qu'avec la Sainte-Agathe, 5 février, revient la saison du jardinage, qui va durer jusqu'à la Saint-Martin, 11 novembre. Des proverbes, des historiettes nous confirment dans cette idée. On sait même... Bon, mais là, c'est un peu un détail qui n'est pas le plus important. On a pensé que dans nos régions, Sainte-Agathe pouvait être confondu avec Santo-Gato, la Sainte-Chatte. C'est une possibilité. Il faut savoir que Sainte-Agathe... Dans nos régions, son nom est marqué. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, pour en revenir un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, le 1er février, c'est la Sainte Brigitte. Ça succède à une vieille fête du calendrier druidique, mais qui était une fête lunaire, donc à date mobile. Ça devait se situer fin janvier, début février, se déplacer d'une année à l'autre. C'est la fête clé, au fond. C'est la fête qui est aux origines de la Chandeleur et de la Sainte Agathe. Alors cette fête celtique, qu'on appelait Imbolc, c'est-à-dire le grossissement des mamelles, était une fête sous le patronage d'une divinité celtique, Brigitte, qui va se retrouver dans la Sainte Brigitte de Kildare, 1er février. Et cette Brigitte, Bélissama, c'est la lune. Alors, elle patronnait les activités des éleveurs de bétail. Elle patronnait tout ce qui est activité de lactation, de production de lait. De même que Saint Blaise patronnait les activités des éleveurs de bêtes à cornes, à cuir et à laine. Alors, Sainte Agathe, elle patronnait celle du bétail à lait, et ce qui venait compléter le domaine de compétence de Saint Blaise. La chandeleur et les ingrédients que l'on met dans les crêpes, en quelque sorte, évoque également ce genre de tradition, puisque pour les faire des crêpes, il faut du lait, il faut du blé, il faut du beurre, il faut du sucre et compagnie. Il faut savoir que dans le monde celtique ancien, l'observation du temps qu'il faisait pour cette fameuse fête d'Imbolc, qui se retrouve dans les observations que l'on peut faire du temps de la Chandeleur, de la Saint-Blaise, de la Sainte-Agathe, de la Sainte-Isidore, selon les observations que l'on faisait, on savait si l'année allait être abondante. Alors pour les Celtes, l'abondance de l'année, ça se traduisait par une abondance de récolte en blé, la farine, le pain, les crêpes, en lait, en beurre, en miel et en pommes. Donc toutes les activités, si vous voulez, dont la production entre dans la fabrication des crêpes, étaient en quelque sorte patronnées par une divinité, Brigitte Bélissama, dont la fête se situait fin janvier, début février, et dont il nous reste la chandeleur. Alors la chandeleur, qu'est-ce que c'est? J'oubliais de vous le dire. C'est la fête de la purification de la Sainte Vierge 40 jours après la Noël. C'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Dans le monde juif, 40 jours après la naissance d'un garçon, c'est toujours vrai, la mère doit se purifier par un bain rituel dans le mikvé. Pour les filles, c'est 80 jours après la naissance. Donc la chandeleur, c'est la fête qui commémore, par laquelle l'Église célèbre la purification de la Sainte Vierge, la présentation de Jésus au temple, pour sa circoncision et pour le rachat de Jésus, en quelque sorte. Dans nos pays, c'est une fête qui est surtout marqué par des traditions en rapport avec le calendrier pascal. Pourquoi ? Parce que si on fait très attention, Pâques se situe 50 jours après le mercredi des cendres. Et alors que le carême ne dure pas 40 jours, il en dure 46. Mais enfin bon, pour des questions de calcul un peu compliquées, disons qu'il faut se rappeler que Pâques, c'est le 50e jour après le mercredi des cendres. La date la plus précoce du mercredi des cendres, c'est le jour de la Saint-Blaise, le 3 février. Donc, le Mardi Gras, jour de carnaval, qui avant que le carême ne commence, ça peut tomber certaines années, puisque Pâques est une date lunaire dans mobile, le carnaval peut tomber le jour de la chandeleur. Donc, le jour des crêpes peut être aussi le jour du carnaval. Donc, le dernier jour, gras. Le lendemain, Saint-Blaise peut être le mercredi des cendres, qui est le début du carême. Donc, il y a là une possibilité de carambola, enfin de rencontre, de coïncidence entre les dates du calendrier liturgique, catholique, pascal, qui est un calendrier lunaire, et les vieux rites à date solaire qui tournent autour du changement, du passage de l'hiver à l'été, et qui ont donné naissance au rite du carnaval. Alors, pour quelle raison est-ce que le carnaval intervient dans cette histoire-là? C'est que voilà, jusqu'à l'instauration du christianisme comme religion générale en Europe, l'hiver se passait en bombance, en ripaille et en festivités extérieures sous forme de danse et de danse masquée. Avec l'instauration du christianisme, l'Église va lutter contre ces célébrations et va les réduire à certaines dates bien particulières. Alors, pour mettre en valeur Pâques et les festivités de Pâques, l'Église va imposer 40 jours, mais ça s'étend à 50 jours, de jeûne et d'abstinence avant Pâques. Ce qui va, en quelque sorte, limiter le carême à la période avant le mercredi des cendres. Ça va même se réduire, dans certains cas, à des danses masquées, rituelles, où les membres du clergé, malgré les condamnations des conciles et des synodes, devaient, dans le cœur des églises, se livrer donc à des danses rituelles masquées de peaux d'animaux et de faciès animaux, de chiens, de loups, de singes et d'ours, que l'on retrouve du reste évoqué par les sculptures du second niveau, le niveau médian, de l'abside de Saint-Hilaire de Montcuq. Vous avez toute une frise de sculptures qui vous évoque très bien ces danses masquées qui devaient être célébrées pendant les 12 jours entre Noël et le jour des rois, mais qui pouvaient l'être à d'autres dates de l'année, notamment lors du carnaval, donc du Mardi Gras. Et je vous dis que lorsque Pâques est très précoce, très tôt, peu après le solstice, l'équinoxe de printemps, le carême commence pour la Saint-Blaise. Et le Mardi Gras a lieu pour la Chandeleur. Donc il y a périodiquement une possibilité de coïncidence entre deux dates qui ont des sens et des valeurs différentes, mais qui se rejoignent épisodiquement dans notre calendrier. Donc deux calendriers apparaissent, un calendrier agraire, rituel, de festivités destiné à provoquer le retour de l'abondance des récoltes et le retour de et la reviviscence de la nature au printemps, festivités de fin janvier et février et calendrier chrétien lunaire pascal. Et lorsque ces deux dates correspondent, l'année est particulière, c'est une année exceptionnelle en quelque sorte. D'où, évidemment, l'apparition de rites, de traditions, de coutumes qui sont connues dans nos régions, par exemple à travers un tabou que m'avait appris notre fameuse plus que guérisseuse de mon cul, qui me disait qu'en février, il ne fallait pas tailler les arbres, parce que tailler les arbres fruitiers en février, c'était les tuer. Ça rejoint d'autres tabous, comme ceux des 12 jours, sur les eaux de rivières et de sources. Ça rejoint d'autres traditions et coutumes, par exemple dans le Lozertin. Pour la Sainte Agathe, on protégeait les récoltes des orages estivaux en faisant sonner les cloches. On allait à la messe, à la suite desquelles on se livrait à des processions, par exemple à Moissac, qui voulait que, et elle est toujours peut-être célébrée, le soir de la Sainte Agathe, une fois la nuit tombée, les membres de la confrérie des jardiniers et maraîchers se réunissaient dans l'ancienne chapelle Saint-Martin, se munissaient de torches de bois de pin résineux et processionnaient à travers toute la ville de Moissac et autour de celle-ci pour assurer la bénédiction, enfin comment dirais-je, la protection de Sainte Agathe sur les cultures jardinières et maraîchères. Sainte Agathe passait pour protéger des orages estivaux. Elle était la patronne de la lactation, des nourrices, des bestiaux allés, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle rejoignait donc les compétences de la déesse celtique Brigitte Belisama, qui est fêtée donc pour la fameuse fête d'Imbolc, qui se situait dans le calendrier druidique vers fin janvier, début février. Et il y avait donc là donc différents rites qui apparaissaient dans nos régions et qui sont encore cités chez les folkloristes et ethnologues, notamment dans le Vieux-Quercy du Chanoine-Saul, mais qui sont souvent très, très oubliés. Alors, un des grands saints qui marque la période, c'est Saint Blaise. Alors Saint Blaise, au 3 février, bon, il pourrait faire l'objet de toute une émission. Il est certainement l'héritier d'un vieux dieu loup dont la vie, telle qu'elle est restituée dans la légende dorée de Jacques de Voragine, est celle d'un maître des animaux sauvages, un maître de la nature sauvage. Il est évêque et ermite dans une grotte. Et de cette grotte, il dirige, il maîtrise, il domine, il règle la vie de la nature, les activités des animaux sauvages et du bétail. Il protège le bétail contre les animaux sauvages et en même temps qu'il est un meneur de loups, un maître des loups. Il évoque le maître de la forêt et des animaux sauvages des populations de la Sibérie, population qu'on appelle paléo-sibérienne. Il est aussi souvent assimilé à Gargan, d'où le Gargantua de Rabelais, né un jour de la Saint-Blaise. Il est Gargan en tant que maître des menhirs et des dolmens. Donc notre Saint-Blaise, qui marque Montcuq par une ancienne chapelle qui lui était dédiée, Faubourg Saint-Privat, à l'emplacement de l'actuelle statue de la Sainte Vierge, notre Saint-Blaise, dont la vie est résumée dans un tableau appendu dans l'église Saint-Privat, était un maître du passage. Il était un maître des passages d'angoisse, il était un maître des initiations, et il était, si vous voulez, mais c'est dans la mythologie chrétienne médiévale, beaucoup plus que le Saint-Blaise du sanctoral, que le Saint-Blaise des vies des saints. Comme beaucoup de saints du Moyen-Âge et surtout des époques de l'Antiquité tardive où on est mal renseigné parce que beaucoup de documents ont été perdus, comme la Sainte Brigitte de Guildar, mais qui est pourtant une abbesse du XIe siècle et qui reprend la figure de la Brigitte Belisama des Celtes, il est donc un saint qui marque l'année par des compétences de maître de la nature, que l'on retrouve donc dans beaucoup d'autres saints de notre calendrier ancien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Mais c'est qu'à travers ces rites de la Chandeleur, qui peuvent quelquefois être ceux du carnaval et de l'entrée dans le carême, on voit que l'Église a canalisé les activités rituelles des populations visant à assurer l'abondance des récoltes par la maîtrise des forces de la nature. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un résumé très, très concentré de textes qui s'étaleraient sur des dizaines de pages. Alors, portez-vous bien, tenez-vous bien, et comme on dit en occitan, « Se nostro don la candeliero se su l'elio, mentre caranto zur, cramola se vuo legno. » Voilà, là-dessus, à la prochaine fois, et merci bien, au revoir. Thank you.
calm is the wind. Bless this house and all of our kin. Bless this house and all of our kin. Protect this house and all within. Blessed Bridget, come into thy bed with a jam at thy heart and a crown on thy head. Waken the fire within our souls. Awaken the fire that makes us whole. Blessed Bridget, Queen of the Fire, help us to manifest our desires. May we bring forth all that's good and fine. May we give birth to our dreams in time. Blessed Bridget, calm is the wind. Bless this house and all of our kin. From the souls of infinite light, kindle the flame of our spirits tonight. Bridget, come into thy bed with a jam at thy heart and a crown on thy head. Awaken the fire within our souls. Awaken the fire that makes us whole. Blessed Bridget, Queen of the Fire, help us to manifest our desires. May we bring forth all that's good and fine. May we give birth to our dreams in time. Blessed Bridget, calm is the wind. Bless this house and all of our kin. From the souls of infinite light, kindle the flame of our spirits tonight.